petite bourgade italienne plongée dans le noir et la torpeur. Sur le bord d'une route, on ne peut plus classique. Non loin des premières maisons, se joue le premier acte d'une tragédie à l'italienne. Les secours figés s'affairent à couvrir de draps blancs des corps encore chauds. Le tronçon est fermé depuis des heures. Pourtant, une voiture, doucement, avance vers la macabre scène, une Alfa Romeo. Les policiers présents ne cherchent pas à l'arrêter. Ils savent. La carlingue, couleur sable, frappée du célèbre logo de la marque italienne, s'arrête en plein milieu de la chaussée. Le chauffeur ne descend pas. À l'arrière, ses passagers ouvrent la porte vers l'enfer avec une détermination aussi calculée que brutale. Il fait nuit noire, mais le géant qui s'extirpe du véhicule porte des lunettes de soleil. Ses verres sont aussi opaques que l'obscurité qui l'entoure. Les forces de l'ordre soulèvent leur képi, tentent de glisser un mot ou l'autre. Commendatore, il ne les regarde pas. Ce qu'il cherche, c'est sa voiture, qui doit être agonisante, là, quelque part, dans un fossé. Cet homme s'appelle Enzo Ferrari. Et ce soir, sa destinée semble lui échapper sous le vrombissement des moteurs. Nous sommes le 12 mai 1957. Il est 21h30. Et c'est l'heure H de mon histoire. Derrière la figure incontournable de la marque au cheval cabré, son avocat, mutique, dépassé, allume une cigarette qu'il grille aussitôt. Le silence est de plomb. Les secours n'échangent plus entre eux. Ils savent très bien qu'il n'y a plus rien à faire. Pour tenter de comprendre l'innommable carnage qui s'est déroulé ici, il y a quelques heures à peine, Enzo s'en va seul, dans l'obscurité. S'il ne peut le voir de ses yeux, voilé par l'obscurité, il le devine. Il sent l'odeur de la gomme brûlée. Un freinage d'urgence, peut-être une crevaison. Il lève enfin les yeux vers son accompagnateur. À quelle vitesse roulait-il? Aucune émotion dans la voix, pas même de la consternation. L'autre en face, tremblotant de tout son être, répond machinalement les yeux dans le vague. Le chef de la police m'annonce que la vitesse devait dépasser les 250 km à l'heure. Ah, sur une route de campagne comme celle-là, Ferrari ou pas, aucune chance de s'en sortir à cette allure. Et quand il fait des corps des pilotes, l'avocat, totalement perdu, ne sait même pas ce qu'il dit. À l'hôpital, je crois. Baissant le regard vers une énorme flaque de sang séchant sur le goudron, Enzo Ferrari enlève enfin ses lunettes opaques. Ce n'est que pour les remettre aussitôt. C'est ici qu'il est mort. Il, c'est Alfonso de Portaggio, marquis de son état et pilote pour la firme italienne depuis l'année précédente. Il était le premier Espagnol à monter dans le cockpit d'une F1 de la marque iconique. Son potentiel semblait infini. Avant cette foutue course, coupé en deux, littéralement sous l'effet du choc, de Portaggio emporte avec lui dans sa perte de contrôle pas moins de 9 spectateurs inconscients du danger, dont 5 enfants. Une véritable tragédie. Enzo, qui continue son chemin jusqu'au fossé fatidique, contenant la carlingue de sa voiture encore fumante, ne laisse rien échapper. Il est devenu une véritable forteresse, alors que la destinée semble s'acharner sur lui depuis un certain temps déjà. Ses lunettes de soleil, il ne les quitte plus jamais. Elles sont le mur séparant la mort de la réalité. Elles lui servent aussi à se protéger des affres qu'il subit avec acharnement. Enzo Ferrari n'est plus que l'ombre de lui-même. Les catastrophes s'enchaînent depuis des années, sans qu'il ne puisse jamais les juguler. Des pilotes, il en a déjà perdu bien plus qu'il n'aurait dû. C'est absolument inhumain. Des sentiments, pourtant, il ne fait pas. C'est ça, la course automobile. un balai incessant entre l'adrénaline et la faucheuse. Le bruit des moteurs est loin d'être le ronronnement feutré qu'on leur connaît aujourd'hui, non. Non, leur rugissement est terrifiant. Leur carlingue frêle n'est jamais qu'une boîte de conserve avec un volant et une boîte de vitesse. Avec des cockpits ouverts et des casques qui ne sont pas encore intégraux, les gladiateurs des temps modernes portent des lunettes d'aviateurs de la dernière guerre. Leur combat, ils le mènent contre la mort elle-même, développant une relation particulière qui interpelle autant qu'elle fascine. Mourir au volant de ces bolides semble une fin en soi, une recherche, un but. La victoire ou le trépas, c'est cela, être pilote de course dans les années 1950. On trouve la voiture, ou ce qu'il en reste, encore fumante. Sur la carlingue, les résidus du numéro 531 sont encore là. Il n'y a plus rien d'autre. Le patron saute dans le fossé et touche du bout des doigts l'épave. Alors que la nuit règne en maître, Ferrari peut encore entendre le son du moteur à pleine puissance. Le désespoir du pilote qui tente de rétrograder sans comprendre ce qui lui arrive. Et puis tout de suite après, les hurlements. Ceux des familles des victimes gisant sur le bord de la route. Ceux des proches des pilotes. Le Portaggio n'était pas seul. C'était sa première Mille Miglia. Enzo lui avait donc imposé un copilote pour cette course. Il a beau être un roc qui paraît vivre dans les limbes de ses émotions, Enzo est tiraillé par des sentiments particulièrement ambivalents. Cet accident va lui causer de graves problèmes. Des problèmes d'image, en premier lieu. Sans parler des éventuelles suites judiciaires. Et pourtant, il ne peut s'empêcher d'éprouver une certaine satisfaction. Ouais, Ferrari vient de gagner les Mille Miglia. Mieux que ça. Le cheval cabré truste les trois marches du podium. Sur les cinq voitures engagées, Ferrari compte une panne, trois sur le podium et puis un équipage tué. Voilà pourquoi il avait fondé cette marque, pour gagner des courses. Maserati, depuis quelques années, tente par tous les moyens de lui voler les couronnes. Parfois d'ailleurs avec réussite. Les meilleurs pilotes, dorénavant, ne tapent plus tous à sa porte. Fangio, pour ne citer que lui, court pour la marque au trident. Il sera dans quelques années l'un des plus grands champions de l'histoire de la Formule 1. Les voitures qui sortent de l'usine ne sont qu'un gagne-pain qui permet de financer les saisons de Formule 1 ou celles d'endurance. Sa clientèle, Enzo, il s'en contrefiche complètement. Lui, ce qui l'anime, ce sont les moteurs, les innovations, le bitume. Avec ce que cela peut comporter de magique et de tragique. Son avocat derrière lui ne peut s'empêcher de voir les choses autrement. Les comptes sont en berne. Et aussi fou que cela puisse paraître, la faillite est proche. Cette affaire ne risque pas d'arranger un bilan déjà médiocre. Un silence de mort s'est installé comme dans le cœur d'une cathédrale. L'avocat le brise, non sans peine. Enzo, cette fois, nous sommes vraiment dans la merde, jusqu'au cou. Ferrari ne répond que par un regard réprobateur. Il n'ouvre pas la bouche. Les dernières ambulances viennent de partir avec ce qu'il restait des victimes. Le silence, déjà pesant, devient impénétrable. Enzo, t'entends ce que je te dis ? Les deux hommes sont amis depuis des années. L'avocat est d'ailleurs l'un des seuls à l'appeler par son prénom. Pour toute la ville de Modène, pour toutes les équipes de Maranello, où se situe le siège historique de la marque, il est il commendatore, le commandant. C'est ce qu'il représente. Le chef absolu d'une marque considérée comme un diamant brut. Image de marque de toute une nation. Mais aujourd'hui, le monument vacille. Il manque de s'effondrer. En sortant du fossé, le regard droit vers le village de Guidizzolo, Enzo Ferrari sort enfin de son mutisme. Il n'était qu'à 50 km de l'arrivée. mafia en Italie sont une véritable institution. Une première fois interdite en 1938 par le fasciste Mussolini, convaincu de la dangerosité de cette épreuve, la course avait pu reprendre après la guerre. Enzo Ferrari est persuadé d'avoir vécu la dernière aujourd'hui. Comment le gouvernement pourrait-il continuer à l'autoriser après ce massacre? La course prévoit de partir de nuit pour arriver le lendemain. Elle doit durer un peu moins de 24 heures. Depuis Brescia jusqu'à Rome pour revenir à Brescia. Le tout sur des routes dégagées, sans barrières de sécurité, traversant des villes, sur les pavés, sur les routes carrossables, empruntées par toutes les voitures du coin. On lance sur ce goudron sinueux, étroit, piégeux, des bolides venant de tous les horizons, de tous les pays. Cette année, Il Commendatore avait mis la pression à ses équipages. L'objectif était d'éclater Maserati. À la mi-course, c'était chose faite. Deux voitures sur trois de l'ennemi ne verraient pas l'arrivée de l'épreuve. Mais à quel prix cette victoire? Enzo continue ses élucubrations. C'est ça qui les a tués. Ils se sont fait la guerre entre équipiers. Et il a raison. Pas de hiérarchie chez Ferrari. C'était le credo d'Enzo. Que le meilleur gagne. Au dernier arrêt, devant la pression du résultat, De Portaggio était reparti sans faire changer ses pneus. Enzo n'est pas fou. Il sait que s'il est avéré qu'un oubli de ce genre est la cause de l'embarras des mortels, il est foutu. C'est certainement ce que son avocat cherche à lui faire comprendre. Pourtant, l'homme de loi n'est pas satisfait, alors il insiste. Enzo, la police de Rome va débarquer. Ils vont nous réclamer la voiture. Cette fois, la tension monte sur le goudron. Et alors ? Répond Ferrari. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse ? Fais ramener la voiture au garage. On va tenter de comprendre ce qui s'est passé avant qu'ils viennent marcher sur nos plates-bandes. L'avocat acquiesce, tourne les talons, repart dans le noir, mais bientôt, ses talonnettes ne frappent plus le sol imbibé de mort. Il s'est arrêté. Hésite avant de prendre la parole. Enzo, il y a autre chose. Ferrari ne se retourne pas. C'est Laura. L'avocat repart sans répondre. Ils se sont compris. Cette fois, l'Empire Ferrari vacille pour de bon. Mais va-t-il céder ? Notre histoire commence 24 heures plus tôt. Nous sommes au cimetière San Cataldo de Modène, toujours en Italie. Le soleil est levé depuis une heure à peine que déjà un homme, les cheveux grisonnants ramenés vers l'arrière du crâne, s'avance sur une allée au gravier immaculé. La démarche sûre, il se dirige vers un immense caveau. Comme tous les matins depuis 11 mois, Enzo Ferrari vient rendre visite à son fils, comme il aime à le dire. Se recueillir plutôt, puisque Dino est mort l'année précédente. Le gamin n'avait que 24 ans. Cette mort prématurée, provoquée par une saloperie génétique qu'on appelle la myopathie de Duchenne, a brisé toute une famille, tout un empire. Héritier tout désigné de la marque, concepteur quelques mois avant sa chute vertigineuse d'un moteur V6 qui fera gagner à son père bien des courses, Dino était avant tout un sourire, un fils modèle et un symbole. Celui de l'union entre deux des personnalités parmi les plus importantes de Modène. Enzo, évidemment, mais aussi et surtout Laura, la matriarche, la chef de clan. Aussi déterminé que tempétueux, le caractère bien italien de Laura s'était subitement transformé. Elle s'était renfermée à la mort de son fils unique. Comment ne pas comprendre le chagrin de cette mère face à l'injustice du jugement de la faucheuse? 4 ans, c'est pas un âge pour mourir. D'autant moins lorsqu'on s'appelle Ferrari et qu'un avenir doré nous est promis. Enzo, lui, était devenu mutique. Face à l'horreur, il avait choisi le silence. Un bouquet de fleurs à la main, toujours le même, il pénètre dans le caveau. sur la gauche, la tombe de son grand frère, Alfredo. Prénom maudit. C'était aussi celui de Dino, donné en l'hommage de l'aîné disparu durant la guerre. L'Europe martyrisée ne se remet que doucement des affres guerriers dont les relents torturent encore les âmes et les consciences. La main ridée d'Enzo attrape le prie-dieu qu'il utilise comme tabouret et, comme par enchantement, face à la photo de son fils souriant, le patriarche se met à parler. Durant de longues minutes, il ouvre son cœur. Son nœud de cravate impeccablement noué est bien souvent mouillé de larmes douloureuses. Implacablement, les mêmes mots, la même culpabilité, la même souffrance. Et la sentence, inexorablement la même, jour après jour. Allez, il est temps de faire face aux soucis du jour. Dieu sait qu'ils sont nombreux, les soucis. Ferrari vient d'apprendre qu'il risque la banqueroute. Son avocat lui a reproché ses dépenses faramineuses consacrées aux courses. Les rentrées d'argent permises grâce aux ventes des voitures d'usine ne comblent plus le trou. Année après année, le cheval cabré s'était enfermé dans un paddock duquel il ne pouvait plus sortir. Une seule solution, faire appel à des capitaux étrangers. Et dans cette course effrénée vers de nouveaux partenariats, on avait soufflé à Enzo le nom de Henry Ford. Mais le mania des bolides rouges n'est pas encore convaincu. Partager son pouvoir de décision avec des Amerlocs, ce serait pactiser avec le diable. Seulement, a-t-il encore le choix ? En cherchant conseil auprès de son fils, c'est en réalité face à un miroir qu'Enzo se confronte. Que faire ? Que dire ? Ferrari s'enfonce, lui et son royaume, dans un marasme bien sombre et délicat. Séchant ses larmes, replaçant la chaise de prière en se signant, Enzo embrasse la photo de son fils et repart.
Oui.
Si Maserati l'emporte, alors il en sera fini de sa supériorité nationale. Le cheval sera terrassé par le trident et attirera certainement vers lui les capitaux tant recherchés. Rythmé par le bruit feutré des graviers qu'il foule, Enzo se perd dans ses pensées. Ses pilotes sont prêts. 5 voitures. 5 modèles de ses meilleurs prototypes. 2 315S. 1 250 GT, pilotée par le très prometteur belge Jean Debien. Et la 335S de Portaggio. Le modèle le plus rapide. Le plus imprévisible aussi. Mais Enzo croit en ce petit Espagnol venu frapper à sa porte pour demander un volant. Il pilote comme les anciens, avec classe et prestance sur la route. Sans oublier ce qui compte le plus. La quête de la vitesse pure, celle qui se rapproche le plus de la mort certaine. De Portaggio a tout du futur génie, du futur champion. Et avec les coéquipiers qu'il a la chance d'avoir à ses côtés sur cette course, il ne peut rien lui arriver. Il y a Collins, le British, à la recherche de tous les prix. Et surtout, surtout, l'Italien, Taruffi, qui, pourtant au crépuscule de sa carrière, a tout du roi en recherche d'une ultime couronne. Ce dernier est motivé par le fait d'avoir presque tout gagné, sauf cette course mythique des mille et milliards. Alors, tout était possible. Enzo avait fait parler ses talents de manager, poussant chaque pilote à se donner à fond, en leur laissant croire, entre autres, que c'est sur lui et pas sur les autres qu'il misait. Un malin comme un singe. Cette manœuvre, pourtant, va coûter la vie à l'un des siens. À la sortie du cimetière, Enzo remonte dans son Alfa Romeo, un comble. Direction l'usine. Au même moment, une autre voiture se gare juste en face de lui. En descend Laura, sa femme. Elle vient voir son fils, elle aussi. Les époux s'ignorent et n'échangent pas un seul mot, et pour cause. Laura vient de prendre Enzo en flagrant délit de double vie. Lorsque je vous dis qu'Enzo Ferrari vit un séisme au milieu des années 50, vous pouvez me croire, ce n'est pas fin. L'échelle de Richter ne suffirait pas à en mesurer l'ampleur. Le fondateur de la marque se bat sur deux fronts, le professionnel et le personnel. Durant la guerre, alors que ses usines se faisaient détruire par les bombardements et qu'il envoyait sa famille à l'abri, Enzo a rencontré une autre femme, Lina Lardi. Le coup de foudre, inattendu, implacable, a illuminé les jours sombres de l'industriel. Ce fut tellement le cas que la jeune femme est tombée enceinte. Face au scandale que cela pouvait provoquer, les amants décidèrent de se cacher. Enzo a acheté une maison, y a planqué sa maîtresse et le nouveau-né, Pierrot. Le petit garçon n'ignore rien de la célébrité de son père, mais lui porte le nom de sa mère, Lardi. Enzo passe de longs moments à leur côté, partageant son temps avec plus ou moins d'équité. Un pacte scellé entre les amoureux prévoit que Laura apprenne la vérité à Pierrot lorsqu'il aura 10 ans. Ouais, mais la destinée, une nouvelle fois, se mêle des plans audacieux d'Enzo. Son autre fils, Dino, tombe si malade qu'il en meurt. Comment, après ça, annoncer à Laura la terrible nouvelle? Qu'est-ce qui peut être plus destructeur pour une femme qui vient de perdre son fils unique que d'apprendre la double vie de son mari?